Radio Grand Ciel, bonjour. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voilà à la première émission de Demain l'énergie de l'année. Au micro, Paolo Davi et à l'autre bout du fil, Marc Blaiseau. Nous profitons pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022, pour vous et vos chers. Une très bonne santé à tous et nous en avons besoin. Avec cette pandémie du Covid qui nous rend la vie difficile depuis 2 ans. Bien sûr, Marc, tu voudrais aussi souhaiter la bonne année à nos auditrices et à nos auditeurs.
Bien sûr, Paolo, c'est avec grand plaisir que je souhaite à vous tous et à vous tous non seulement une excellente année, mais aussi beaucoup d'amour, de joie, de sérénité surtout. Je crois que nous en avons bien besoin.
Ah oui, oui, tout à fait, Marc. L'énergie sera aussi en 2022 un domaine particulièrement scruté, en forte évolution et très très important pour l'évolution de notre vie et de notre vie future. Aujourd'hui, pour la rubrique Quoi de neuf, Marc, nous reviendrons sur un article paru dans la revue Transition Énergie sur les différentes méthodes pour l'évaluation de la performance environnementale. La revue en question montre comment différentes méthodes, de la plus simple à des méthodes multicritères, peuvent conduire à des résultats sensiblement différents pour l'évaluation des performances des politiques climatiques. Mais à quoi peuvent bien servir, Marc, ces classements?
Sans doute pas à décerner médailles ou à blâmer les mauvais élèves, Paolo, mais premièrement, ils peuvent encourager au développement de systèmes d'indicateurs pertinents pour l'élaboration, le suivi, surtout l'évaluation des politiques environnementales. On dit en général dans l'industrie qu'on ne progresse que si on mesure bien.
Ah oui, oui,
cela à l'image des études d'impact que fait la Commission, par exemple, pour les politiques européennes.
Ouais.
Et puis deuxièmement, ils permettent à un État finalement d'identifier par la comparaison avec les autres et par sa propre comparaison aussi son évolution récente, ses points forts et surtout ses points faibles, et ceci afin d'améliorer ses politiques globales.
Oui, oui, tout à fait, Marc. Regardons un exemple, la caractérisation la plus simple, basée sur les données de NRData, les émissions de CO2 par habitant des pays du G20 entre 2009 et 2019. Eh bien, il faut noter aussi qu'il s'agit que des émissions territoriales qui ne tiennent pas compte de l'empreinte carbone des émissions importées ou exportées dans les commerces extérieurs, par exemple. On constate donc qu'en 2019, les émissions de pays du G20 ont en moyenne été de 8,2 tonnes de CO2 par habitant et par an, et qui entre 2009 et 2019, elles sont restées pratiquement stables. Bien sûr, ces moyennes cachent des réalités très différentes. On peut identifier 4 grandes catégories de pays, selon qu'ils se situent en dessous ou en-dessus de cette moyenne, et en la croisant avec leur évolution récente. Les pays les plus vertueux sont 4 pays européens, Royaume-Uni, Italie, Espagne et bien sûr la France, pays où à la fois la production d'énergie est décarbonée, mais où aussi la désindustrialisation a été importante. Un peu en dessous, on trouve 3 pays, le Mexique, l'Argentine et l'Afrique du Sud, peut-être qui ont des systèmes, par exemple, l'ensemble de transports un peu moins modernes que les pays européens. Après, vient un deuxième groupe. On y retrouve les pays émettant plus que la moyenne et ayant donc un niveau d'émission par tête relativement élevé, mais ayant néanmoins réduit leurs émissions dans les 10 dernières années. On trouve l'Australie, les États-Unis, le Canada, l'Arabie Saoudite, et on a maintenant aussi les pays où la production électrique est décarbonée, passant du charbon au gaz. Vous vous en souvenez que le gaz émet 2,3 fois moins de CO2 que le charbon. Avec un niveau d'émission beaucoup plus proche de la moyenne, 2 grands pays à forte industrie, Allemagne et Japon. En troisième groupe, on identifie des pays à forte intensité, comme la Corée du Sud et la Russie, mais aussi la Chine, qui représente à elle seule 40% des émissions de CO2 de l'ensemble du G20, avec des émissions par tête proche de la moyenne, mais en très forte augmentation, de l'ordre de 28% depuis 10 ans. La délocalisation industrielle de l'Europe profite, si on peut dire, à la Chine. Et enfin, donc, on a un quatrième groupe où on retrouve 2 pays à niveau d'émission inférieur à la moyenne, mais en augmentation nette des émissions, le Brésil et la Turquie, qui ont développé fortement leurs industries ou l'agriculture, et 2 pays à très faible niveau d'émission, mais de forte augmentation dans les dernières décennies. Il s'agit de l'Inde et de l'Indonésie, où l'utilisation du charbon, comme en Chine ou en Corée, est massive. Cette typologie, on voit bien, est utile pour apprécier l'extrême diversité des situations, mais en fait, elle est construite seulement sur une variable, le CO2 par habitant, et donc elle est forcément très partielle et sommaire. Pour apprécier la réalité des performances environnementales, il faut donc recourir à des systèmes de mesure un peu plus complexes. Et je crois que Marc, tu as développé un des systèmes qui sont utilisés et tu peux en parler.
Et tout à fait, Paolo. La revue dont nous parlions a retenu 6 études qui couvrent un grand nombre de pays et qui permettent, grâce à un indice synthétique, d'élaborer un classement des performances environnementales assez précis, ce que les Anglais appellent performance ranking. Alors, j'ai retenu l'EPI, l'Environmental Performance Index, qui est un index indépendant des universités américaines de Yale et Columbia, est très utilisé par les organisations écologistes. Et il est effectué en plus très sérieusement tous les 2 ans. Donc on a une bonne progression.
Donc il est mis à jour, oui, systématiquement.
Il est mis à jour très souvent. Alors il considère de très nombreux indicateurs, dont la santé environnementale pour 40% de la note et la vitalité des écosystèmes pour 60%. Alors si on veut aller dans le détail, on trouve dans le premier point par exemple la qualité de l'air et de l'eau, l'exposition aux risques environnementaux, industriels, et dans le second, les ressources et le traitement ou non des eaux usagées, par exemple, l'utilisation importante ou pas des engrais et des pesticides, l'augmentation de l'importance des forêts, des couverts forestiers, les stocks de poissons maritimes, l'importance des paysages et espèces protégées dans les parcs naturels et le train sur l'intensité carbone et les émissions de CO2 dans la production d'énergie. Donc, il n'y a pas que le CO2 dans l'indice, c'est beaucoup plus varié.
Oui, effectivement.
En 2020, sur les 12 premiers pays, on peut faire un petit cocorico, puisque 11 pays étaient européens, c'est considérable. Alors, la palme revient au Danemark, et la France et la Grande-Bretagne qui sont très très bien placés, 5e et 4e respectivement, donc en 2020. Alors, l'Allemagne est plus loin, on a déjà expliqué pourquoi, le fait du charbon, oui. 10e, mais les États-Unis sont très loin dans la liste, 25e. Ouais. Donc voilà, il y a des écarts et je crois qu'il ne faut pas effectivement tout juger sur le CO2.
Oui, bien sûr, Marc. Effectivement, le CO2 par habitant est clairement une méthode très approximative. Eh bien, Marc, nous allons maintenant, statistique très intéressante, nous allons continuer à parler du sujet dont nous avons parlé lors de notre dernière émission, les CCS, c'est-à-dire la capture et le stockage du CO2. Ces gaz, ce CO2 qui est un gaz donc à effet de serre et qui est l'une des causes de l'augmentation de la température et par conséquence de l'évolution climatique. Il faut rappeler que selon l'agence américaine EIA, Energy Information Administration, dans le dernier rapport est d'octobre 2021, les sources d'énergie fossiles, comme le charbon et le pétrole, resteront très importantes dans le mix énergétique mondial, autour des 66% contre aujourd'hui 80%. Et donc, il ne sera pas possible d'avoir un réel impact sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre sans le recours à des techniques CCS ou CCUS. Juste pour un rappel, Marc, qu'est-ce que c'est les CCS et après on verra qu'est-ce que c'est les CCUS.
Oui, alors parlons ce procédé, donc CCS, consiste à capturer, on dit captage ou capture du CO2 et à piéger ainsi les molécules de CO2 avant, pendant ou après l'étape de combustion afin d'éviter sa libération dans l'atmosphère, dans l'air.
Ouais. Il faut remarquer, Marc, que collecter les dioxydes de carbone, c'est-à-dire le CO2, est une opération difficile et encore relativement coûteuse. Elle n'est vraiment réalisable que sur des installations industrielles qui sont fortement émettrices, comme les centrales électriques, la production de ciment, la production de verre, la sidérurgie, etc. Le CO2 émis par les transports, l'agriculture ou l'habitat n'est pas concerné car ces émissions sont unitairement trop petites et diffusées et donc on ne peut pas les collecter. Il y a aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, le procédé dénommé CCUS, pour Carbon Capture, Utilization and Storage.
Oui, tout à fait, Paolo. Donc, on ajoute le U, qui veut dire utilisation, car effectivement, il est possible aussi d'utiliser plus largement le CO2 par rapport à ce qu'il est aujourd'hui.
Oui, et quelles sont les utilisations, Marc?
Alors, il y a plusieurs méthodes d'utilisation, même de valorisation, qui ont déjà un niveau industriel important. Alors, il s'agit de l'utilisation du CO2 dans la récupération assistée du pétrole, des hydrocarbures. On utilise à peu près à l'échelle mondiale 50 millions de tonnes sur l'année pour ça. C'est surtout utilisé dans la synthèse des produits chimiques par réaction avec un autre composant et aujourd'hui surtout dans la synthèse de l'urée. Donc c'est à peu près 100 millions de tonnes de CO2 par an et ça sert l'urée pour faire des engrais azotés dans le monde entier. Puis il y a des applications un peu plus légères aujourd'hui, comme la production d'acide salicylique hein, pour l'aspirine, des procédés de fabrication de polycarbonate, des matières plastiques assez
Plastique,
performantes pour les verres optiques, les DVD, les CD, le polyéthane comme pour faire des mousses ou des caoutchoucs. Donc voilà un peu les utilisations actuelles.
Oui, c'est très intéressant. Mais Marc, finalement, les quantités de CO2 utilisées dans ces domaines est encore plutôt, je dirais, relativement faible. On parle d'environ 0,1% des émissions mondiales. Donc on sait que les émissions mondiales sont autour de 40 milliards de tonnes de CO2 par an.
Tout à
Oui,
fait, pas.
oui, oui.
Ouais. Enfin, c'est pas beaucoup, mais un pour mille, effectivement. Des très nombreuses recherches sont engagées dans le monde et ouvriront dans une période, je pense, assez rapide, 5 à 20 ans, de nouvelles perspectives pouvant conduire peut-être à absorber entre 5 et 10% des émissions actuelles, si les questions de coût trouvent des solutions raisonnables. Alors, on a des recherches assez avancées maintenant, et procédés canadiens et français, en matière de minéralisation et de carbonatation, notamment pour durcir et réutiliser les bétons usagés, toutes les destructions de maisons, d'immeubles. Donc c'est important ça. Mais les chercheurs mettent aussi beaucoup d'espoir dans la production de produits à valeur énergétique, c'est-à-dire principalement du méthanol, de l'acide formique, et qui en bout de chaîne peuvent former des carburants par un grand nombre d'éventails de procédés, dont le principal est quand même l'hydrogénation, mais il y a aussi le réformage, l'électrolyse, la catalyse, la thermochimie. Les volumes pourraient être assez importants, mais ils exigent pas mal d'hydrogène. Hein. Faudrait produire sans émission de CO2, ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Ça serait certainement par électrolyse de l'eau, mais qui nécessite des montants absolument considérables d'électricité. Alors c'est le même problème dans la méthanation aussi. Le CO2 peut se combiner à l'hydrogène pour créer du méthane, c'est-à-dire du gaz naturel. Pour ça, il faudrait que le prix de la tonne de CO2, c'est les pénalités CO2 s'envolent pour que ce procédé devienne économiquement rentable.
Rentable. Oui, mais Marc, juste pour dire la production de l'hydrogène, c'est vrai que il y a l'hydrolyse de l'eau qui est fortement, très fortement consommatrice d'énergie, mais on peut produire de l'hydrogène à partir même du méthane en injectant justement le CO2 qui est produit dans les processus, dans les sous-sols, et là l'hydrogène produit n'émettrait pas de CO2 dans l'atmosphère, quoi. Voilà. Mais
Si on a
bon.
réussi à le capter, effectivement, c'est ce
Voilà,
qu'on disait
c'est
tout
le
à l'heure.
but de ce dont on va
C'est le but
parler.
de l'émission.
Voilà.
Il y a pas mal de points communs entre l'hydrogène et CO2.
Eh oui. Il y a aussi, Marc, donc une utilisation dans le domaine biologique par photosynthèse au sein des organismes biologiques comme les microalgues dont la croissance nécessite d'importantes quantités de CO2.
Tout à fait, oui. On pourrait parler même de tous les végétaux chlorophylliens, finalement. Mais la culture des microalgues est aujourd'hui à un stade commercial, avec des toutes petites productions, mais à haute valeur ajoutée, des produits qui coûtent très cher, comme les pigments, la spiruline, les oméga-3. Alors, des perspectives se dessinent dans l'alimentation animale, la chimie des spécialités, et dans la production de biocarburants, hein, depuis une dizaine d'années. Alors, c'est un secteur qui intéresse beaucoup l'aviation, hein, par exemple, mais le coût et les surfaces nécessaires au développement de ces algues sont aussi très importants. Donc, c'est des obstacles majeurs, c'est l'espace et le coût.
Donc Marc, ben, très bien, on fera une petite pause musicale maintenant avant de revenir à notre captage du CO2 et de parler comment on va le faire. Voilà. Thank you. Donc Marc, revenons à notre captage de CO2 et de ces molécules de CO2 piégées doivent être bien sûr transportées vers des sites de stockage.
Oui, exactement. Une fois qu'on a séparé le CO2 de la fumée des usines, on va transporter ce CO2. Ce n'est pas une étape compliquée, hein, puisque des méthodes de transport de gaz naturel en général sont maîtrisées et on les reproduit aussi pour le CO2.
Oui, j'imagine qu'effectivement, il y a plusieurs méthodes pour transporter ces molécules de CO2.
Oui, il y a deux grandes solutions finalement. Le transport par canalisation, hein, des gazoducs, les gens parlent même maintenant de carboducs. Le CO2 gazeux est comprimé au point d'atteindre un état supercritique, quasi liquide. Alors ce type de transport est déjà très bien en place aux États-Unis, hein. On transporte plus de 40 millions de tonnes de CO2 qui sont acheminées grâce à des pipes et des conduites aux États-Unis. Ils ont maintenant plus de 7000 kilomètres de transport.
Oui, donc c'est une technologie maîtrisée, quoi.
Oui, ouais, tout à fait. Et puis il y a le transport par camion ou navire, hein, donc c'est des transports beaucoup plus petits. Le transport est sous forme liquide, à une pression d'environ 15 bars et une température de moins 30 degrés, donc des choses qu'on sait faire. On peut les voir sur l'autoroute, hein, entre Pau et Toulouse, des camions qui transportent le CO2.
D'accord. Donc Marc, donc, comme je disais, ces techniques sont très matures et bien utilisées et connues. Mais donc après, une fois qu'on transporte ce CO2, on va les stocker et on fait ce qu'on appelle un stockage géologique. Donc c'est quoi, Marc?
Tout à fait. Donc, une fois arrivé sur un site de stockage, ben, c'est une phase d'injection qui commence. Donc, on injecte par des puits qui ressemblent beaucoup à des puits de gaz, hein, sauf qu'on les utilise dans l'autre sens. On produit pas, on injecte vers la profondeur, en général à plus de 1000 mètres. Donc, on injecte dans des formations géologiques réservoirs, on en a déjà parlé, hein, qui sont des formations qui sont à la fois poreuses et perméables, en général des grès ou des calcaires. Alors, soit des anciens réservoirs de gaz et de pétrole qui ont été produits, qui sont abandonnés, qui sont finis de produire, soit dans des réservoirs aquifères, donc où il y a de l'eau qui circule. Et donc, ça permet, ces deux méthodes, des séquestrations à très long terme, hein, parce qu'on va le faire pour plusieurs siècles probablement, voire des milliers d'années.
Ouais.
Alors, le grand avantage du stockage, c'est pour ça qu'on le fait et pour ça qu'on en parle aujourd'hui, en fait, il tient à une caractéristique, c'est le changement considérable de volume du CO2 grâce à la montée en pression.
Ouais.
Si on a 100 mètres cubes de CO2 à la surface, hein, dans l'atmosphère, ça correspond à 0,3 mètres cubes à 1000 mètres de profondeur, à 100 bars.
C'est pour la,
considérablement c'est pour, plus petit.
Oui, c'est pour ça qu'on les enfuit à 1000 mètres.
Tout à fait.
Ouais. Mais Marc, donc, effectivement, essayons d'aller un peu plus dans les détails dans cette étape de stockage géologique qui est une opération qui n'est pas si simple et qui implique un certain savoir-faire.
Oui, Paolo, tu as raison. Le stockage géologique est une étape qui n'est pas la moins délicate. Retenir pendant des centaines d'années ou des milliers d'années d'énormes quantités de gaz ne se conçoit d'abord que dans des réservoirs souterrains de grande capacité, hein, plurikilométriques. Ils doivent être suffisamment profonds, on a parlé de 1000 mètres, pour que la pression maintienne le gaz à l'état supercritique, donc 31 degrés et 80 bars à peu près, et qu'elle soit suffisamment étanche pour qu'il n'y ait pas de fuite.
Oui, et donc en plus, Marc, il faut des méthodes qui permettent de monitorer comment évolue le stockage et comment évolue la situation de l'endroit où on stocke le CO2. Et on peut suivre sur la base, par exemple, de la géochimie de surface avec des capteurs posés autour de puits et qui décèdent 24 heures sur 24 de fuite de l'ordre de 10 ppm, ce qui est tout à fait
ridicule.
Ridicule. Et aussi, bien sûr, il y a la géophysique dont nous avons parlé tout à fait en début de nos émissions, qui permet aussi, qui est une espèce d'échographie du sous-sol et qui permet de détecter des fuites éventuelles. Bien Marc, mais voyons quels sont donc les différents types de stockage souterrain. Nous pouvons dire qu'essentiellement, il y a trois types de stockage souterrain. Les ex-réservoirs de gaz naturel, comme tu viens de dire, ou de pétrole. Une fois que ces derniers sont produits et épuisés, les aquifères salins profonds et les veines de charbon. Mais commençons par les premiers.
Oui, c'est exact. Donc les réservoirs naturels, vider des hydrocarbures qu'ils contenaient, hein, une fois qu'on les a produits, paraissent effectivement les plus intéressants. Parce qu'on les connaît bien, je dirais, leurs caractéristiques géologiques sont très bien connues et l'étanchéité est réellement prouvée par le fait qu'ils ont contenu des hydrocarbures que Mère Nature avait piégées là toute seule, hein, pendant plusieurs millions d'années.
Oui, oui.
Donc, des sacrées couvertures.
Ouais.
Et les techniques industrielles pour injecter des gaz sont aussi très bien maîtrisées par les opérateurs pétroliers en particulier, qui utilisent ces techniques depuis les années 50, hein, pour augmenter la récupération de pétrole. On injecte du CO2 depuis longtemps. Des équipements sont en plus parfois en place, il y a déjà des pipes, il y a déjà des tuyaux et des puits. Les capacités de stockage évaluées sont importantes. On parle de 600 à 1000 gigatonnes de CO2 possibles. Les coûts sont déjà très bas. L'ADEME parle d'environ 10 à peut-être 20 euros maximum la tonne pour le seul stockage. Et ils seront probablement réduits dans les années à venir lorsque ce type d'opération deviendra de plus en plus fréquente.
Oui, donc Marc, ce type de stockage souterrain semble bien maîtrisé et sera sans doute utilisé dans les années à venir. Mais quand je dis années à venir, c'est vraiment demain peut-être. Et qu'en est-il des autres méthodes, comme par exemple le stockage dans les aquifères salins profonds?
Alors, les stockages dans les aquifères salins profonds peuvent aussi jouer un rôle majeur, car leurs capacités sont encore bien supérieures. Là, on parle de 400 à 10 000 gigatonnes à l'échelle mondiale. Et donc, leur répartition géographique est aussi beaucoup plus diversifiée, plus large. Il s'agit de roches également poreuses et perméables, mais saturées d'eau cette fois-ci, généralement associées à des bassins sédimentaires. Leur étanchéité est inconnue, par contre, au départ, et doit être déterminée par une étude géologique et géophysique des couches qui recouvrent les aquifères, donc par sismique, forage, carottage. Ça peut prendre pas mal de temps, là. Des stockages de ce type sont déjà opérationnels. Alors, sur quelques sites aux États-Unis, puis on connaît aussi deux grands stockages en mer du Nord, en Norvège, Sleipner en mer du Nord et en mer de Barents, Neuvik. On injecte à peu près 1 million de tonnes par an sur chacun d'entre eux.
D'accord.
Bon,
Oui, bon,
c'est déjà.
ces techniques sont quand même, disons, proches d'une utilisation importante et à relativement court terme. Mais disons que la première technique d'utilisation des anciens réservoirs pétroliers est peut-être plus prête et aussi à un coût plus intéressant. Mais,
Un coût plus faible et plus rapide à mettre en œuvre aussi.
voilà. Et venons à notre dernière méthode de stockage dans les veines des charbons.
Oui, on parle aussi de stockage dans les veines de charbon, donc dans des gisements de charbon non encore exploités, est rendu possible par la caractéristique de ce charbon, de la houille, qui, bien que très peu perméable, dispose d'une grande quantité de gaz méthane, hein, piégé dans ses structures internes. C'est le fameux gaz grisou. Et ce charbon, il a une affinité encore plus forte avec le CO2 qu'avec le méthane. Donc, ça lui permet d'absorber deux fois plus. Les capacités, là, sont très inférieures aux autres. On parle de 40 à 200 gigatonnes de CO2 à l'échelle mondiale, mais bien réparties aussi. Et leur coût d'exploitation pourrait être assez vite intéressant, parce qu'on va remplacer le méthane par du CO2. Et ce méthane, on va pouvoir le capter en sortie de veine de charbon et le vendre. Donc, leur utilisation commerciale fait l'objet de beaucoup d'études en ce moment. Donc, aux États-Unis, hein, ils sont très en tête là-dessus, dans le bassin charbonnier de San Juan, au Colorado, au Canada, la zone de Big Valley dans l'Alberta, et en Europe, beaucoup travaillent en Pologne, en particulier le bassin de Silésie. Alors, toutes ces expériences devraient réduire les incertitudes relatives à la fiabilité du stockage, parce que là aussi, il y a des risques de fuite, de pollution des eaux de surface en particulier. Mais bon, je pense qu'on aura toujours un petit peu des questions relatives au statut juridique et à l'acceptabilité sociale de cette affaire-là.
Bon, Marc, nous avons vu que donc le potentiel de stockage de ces trois types est vraiment assez conséquent. On peut dire que pratiquement il n'y a pas de limite.
Oui, on peut dire ça. On peut estimer que la capacité de stockage de CO2 à l'échelle du monde est très importante. Le bilan actuel, et je pense qu'il n'est même pas complet, fait apparaître un potentiel de stockage de l'ordre, disons, de 10 000 milliards de tonnes à comparer avec nos émissions, qui sont de 40 milliards de tonnes par an. Donc,
Mais bon, malheureusement, Marc, la situation actuelle n'est pas encore très encourageante. Le stockage géologique est de seulement 40 millions de tonnes par an. Donc, c'est-à-dire, est principalement réalisé aux États-Unis et en Norvège. Il faut rappeler aussi que les coûts de ces opérations de stockage commencent à s'approcher d'une rentabilité économique.
oui, en effet, alors, il y a eu un rapport de l'ADEME en juillet 2020, un très récent, qui montre qu'en France, le coût du procédé sera entre 70 et 120 euros la tonne de CO2. Donc ce
Voilà.
coût est bien sûr à comparer avec le prix de la tonne de CO2 sur le marché international, donc on a déjà parlé,
Ouais.
et qui a beaucoup augmenté cette année, hein, puisqu'on est maintenant à 80 euros la tonne en décembre dernier.
Oui,
Je
tout
regardais
à
les
fait,
chiffres.
oui. J'avais vu ça, oui.
Et donc, je dirais que l'amélioration des procédés pourrait permettre une diminution de ces coûts et que donc on est en effet, comme tu le dis, très proche d'une rentabilité économique.
Ouais. Eh bien, et Marc, tu peux nous dire aussi qu'est-ce qui se passe en France? Il y a plusieurs initiatives dans ce domaine.
Oui, tout à fait. D'abord parce que la France est aujourd'hui le seul pays d'Europe à avoir réalisé déjà un stockage souterrain géologique à terre, hein,
Ouais.
entre 2011 et 2013, tout près de Pau, là, tout près d'où je suis, à Reus.
Ouais.
On a stocké 50 000 tonnes de CO2 dans un ancien champ donc déplété de méthane à 4 500 mètres de profondeur.
Ouais.
Un transport par tuyau, par gazoduc, un ancien gazoduc de 30 km à peu près entre l'usine et le stockage. Donc on sait faire, j'allais dire. Certes, c'est une petite masse de CO2, mais c'est un succès technique et environnemental. Et donc les communautés territoriales, les industriels, tant au sud-ouest de la France qu'au nord de l'Espagne, viennent de se regrouper pour étudier s'il y a un projet de CCUS complet, de captage, transport, utilisation aussi beaucoup et stockage de CO2 dans les anciens champs déplétés. On en a beaucoup ici autour de nous,
Voilà.
du bassin d'Aquitaine, disons de 1 million de tonnes par an par exemple, essayer d'arriver au niveau des Norvégiens,
Voilà.
pouvait se réaliser à l'horizon 2030. Alors c'est ce qu'on appelle le projet Picasso. Mais il y a d'autres projets en France, hein. Il y a 4 autres projets qui sont étudiés, deux dans le nord de la France, l'un à Dunkerque qui est assez avancé, pour capturer le CO2 et l'envoyer en mer du Nord, un autre au Havre, avec les grandes raffineries françaises, et un dans le bassin de Paris, et puis un autre sur le port de Fos, sur l'embouchure du Rhône à côté de Marseille.
Donc Marc, nous avons vu que l'agence américaine de l'énergie, que j'ai citée tout à l'heure, et aussi l'agence internationale de l'énergie, estiment que le stockage du terrain, c'est indispensable et nécessaire, qui pourrait contribuer à 20% des efforts de réduction des émissions en 2050, dans un contexte de diminution par deux des émissions mondiales entre 2005 et 2050.
Oui, Paolo, c'est ça. Et on a encore des obstacles technico-économiques, on en a un peu parlé,
Ouais.
juridiques, parce que stocker pendant des milliers d'années, c'est pas si simple d'un point de vue juridique. Ça appartient à qui, ce CO2? Sociétaux qui persistent. Alors même si on a depuis un an ou deux un très net et un très grand frémissement industriel et technique en Europe, je regardais le web de la Commission cette semaine, il y a plus de 65 projets de CCS ou de CCU qui sont recensés sur la seule Europe,
Ouais, voilà une
qui est
bonne
nettement en tête, hein, sur le sujet.
nouvelle. Bon, Marc, je crois que avec cette dernière émission sur les CCS, nous avons fait un peu le tour de la question et nous avons présenté à peu près tous les aspects importants et intéressants de cette technique. Mais c'est sûr qu'on en reparlera à nouveau dans des prochaines émissions. Et donc, peut-être aussi dans les prochaines émissions, nous parlerons, pas peut-être, même sûrement, on parlera de l'hydrogène et on parlera du dernier rapport du GIEC qui est sorti en août 2021 et on fera un petit point sur quelles ont été les conclusions les plus importantes. Voilà, chères auditrices et chers auditeurs, comme vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez aller sur notre site www.radiograndciel.fr et aussi nous vous invitons à nous écrire si vous en avez envie. À bientôt!
À bientôt à toutes et tous.